Nous allons maintenant entendre la lecture du texte des Écritures que la rabbin Chinsky a choisi pour aujourd'hui et qu'elle va commenter pour nous. Vous avez le texte dans les Cantiques, c'est un texte assez long, le chapitre 14 du livre de Nombres, dans la traduction du rabbinat, une traduction qui ne retentit pas souvent entre ses murs.
Merci pour votre accueil. Merci pour cet espace qui, comme le disait la pasteur Dominique Hernandez, est un espace d'amitié. Et c'est sous l'angle de l'espace qui permet qu'il y ait assez de distance pour se tendre la main et pour se respecter et respecter l'autre dans la rencontre que je voudrais aborder ce texte. Si j'en dis un petit mot avant, c'est parce que la façon de lire juive du texte peut peut-être sembler étrange. Et je tenais, avant de commencer, à préciser que le sacré, peut-être, c'est cet espace, justement, qui s'ouvre entre nous et qui permet plein de choses différentes. Et en principe, on ne lit pas un texte sans son interprétation, donc on en dira un petit mot, justement, après la lecture. Donc, est-ce que ce texte est un drame ou une comédie? Je ne sais pas, ce sera mon interprétation au fil de la lecture. Et on peut le lire en regardant chacun, chacune, ce qu'il éveille en nous et quel angle vous auriez peut-être, vous, choisi pour le traiter, parce qu'il y a effectivement énormément de choses. Mais moi, mon angle, ça va être celui de l'espace sacré qui naît, qui est accueilli par un lieu, par des cœurs ouverts, par des textes anciens. Le peuple affecta de se plaindre amèrement aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel l'entendit et sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel sévit parmi eux et déjà il dévorait les dernières lignes du camp. Mais le peuple implora Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'affaissa. On nomma cet endroit Tabéra parce que le feu de l'Éternel y avait sévi parmi eux. Or le ramas d'étrangers qui était parmi eux fut pris de convoitise. Et à leur tour, les enfants d'Israël se remirent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Il nous souvient du poisson que nous mangions pour rien en Égypte, des concombres et des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Et maintenant nous sommes exténués. Nous manquons de tout, point d'autre perspective que la manne. » Or, la manne était comme de la graine de coriandre et son aspect comme l'aspect du bdellium. Le peuple se dispersait pour la recueillir. Puis on l'écrasait sous la meule ou on la pilait au mortier. On la mettait cuire au pot et on en faisait des gâteaux. Elle avait alors un goût d'une pâtisserie à l'huile. Lorsque la rosée descendait sur le camp, la nuit, la manne y tombait avec elle. Bref. Moïse entendit le peuple gémir, groupé par famille, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel entra dans une grande colère. Moïse en fut contrisé et il dit à l'Éternel « Pourquoi as-tu rendu ton serviteur malheureux ? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ? Et m'as-tu imposé le fardeau de tout ce peuple ? Est-ce donc moi qui ai conçu tout ce peuple ? Moi qui l'ai enfanté ? Pour que tu me dises « Porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte le nourrisson, jusqu'au pays que tu as promis par serment à ses pères. » Où trouverai-je de la chair pour tout ce peuple qui m'assaille de ses pleurs en disant « Donne-nous de la chair à manger, je ne puis moi seul porter tout ce peuple. C'est un fait trop pesant pour moi. Si tu me destines un tel sort, ah, je te prie, fais-moi plutôt mourir si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je n'ai plus la misère en perspective. » L'Éternel répondit à Moïse « Assemble-moi 70 personnes entre les anciens d'Israël, que tu connaisses pour être des anciens du peuple et ses magistrats. Tu les amèneras devant la tente d'assignation et là, ils se rangeront près de moi. C'est là que je viendrai te parler et je retirerai une partie de l'esprit qui est sur toi pour la faire reposer sur eux. Alors, ils porteront avec toi la charge du peuple, et tu ne la porteras plus à toi seul. Quant à ce peuple, tu lui diras, « Tenez-vous prêts pour demain, vous mangerez de la chair, puisque vous avez sangloté aux oreilles de l'Éternel en disant, « Qui nous donnera de la viande à manger, nous étions plus heureux en Égypte ?» L'Éternel vous en donnera à manger de la viande. Ce n'est pas un jour ni deux que vous en mangerez, ce n'est pas 5 ni 10 jours, mais ni 20 jours, mais un mois entier, tellement qu'elle vous ressortira de la gorge et vous deviendra en horreur parce que vous avez outragé l'Éternel qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré dans vos lieux en disant « Pourquoi sommes-nous sortis de l'Égypte ?» Moïse repartit. 600 000 voyageurs composent le peuple dont je fais partie. Et tu veux que je leur donne de la viande à manger pour un mois entier ? Faudra-t-il leur tuer brebis et bœufs pour qu'ils en aient assez, leur amasser tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez ? Et l'Éternel dit à Moïse, « Est-ce que le bras de l'Éternel est trop court ? Tu verras bientôt si ma parole s'accomplit devant toi ou non. » Moïse se retira et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Puis, il réunit 70 hommes parmi les anciens du peuple et les rangea autour de la tente. L'Éternel descendit dans une nuée et lui parla. Et, détournant une partie de l'esprit qui l'animait, la reporta sur les 70 personnages, sur les anciens. Et aussitôt que l'esprit fut posé sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne le firent plus depuis. Deux de ces hommes étaient restés dans le camp, l'un nommé Eldad et le second Médad. L'esprit se posa également sur eux, car ils étaient sur la liste, mais ne s'étaient pas rendus à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse en disant « Eldad et Médad prophétisent dans le camp !» Alors Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Mon maître, Moïse, empêche-les » Moïse lui répondit « Tu es bien zélé pour moi. Ah, plutôt ciel, que tout le peuple de Dieu se composa de prophètes, que l'Éternel fit reposer son esprit sur eux. » Et Moïse rentra dans le camp, ainsi que les anciens d'Israël. Cependant, un vent s'éleva de par l'Éternel, qui suscita des cailles du côté de la mer, et les abattit sur le camp dans un rayon d'une journée de part et d'autre autour du camp, à la hauteur de 2 coudées environ sur le sol. Le peuple s'occupa tout ce jour-là, toute la nuit et toute la journée du lendemain, à ramasser les cailles. Celui qui en recueillit le moins en eut encore 10 homères. Et ils se mirent à les étaler autour du camp. La chair était encore entre leurs dents. Elle n'était pas encore consommée. Lorsque la colère de l'Éternel éclata contre le peuple, et le Seigneur frappa le peuple d'une mortalité très considérable, on donna à son nom le lieu de Kivrot Hatava, parce que c'est là qu'on ensevelit ce peuple pris de convoitise. De Kivrot Hatava, le peuple partit pour Hatzrot, et il s'arrêta à Hatzrot. Et donc, nous sommes au foyer de l'âme, qui me fait penser toujours à ce texte qu'on chante le vendredi soir, qui a été écrit au XVIe siècle, et qui dit « Compagne de l'âme, toi qui es pure largesse, entraîne ta disciple vers ta volonté, pour que je cours comme une biche pour voir la beauté de ta force. » Et cet élan, est-ce que nous arrivons à le développer et comment nous faisons en sorte qu'il existe et comment nous créons cet espace sacré de rencontre ? L'âme, quelque chose qui inspire, et le foyer, quelque chose qui permet de se rassembler. Et cet espace, qui est un espace de spiritualité, de communication et d'action, et qui est donc à la fois un espace du cœur et un espace politique. Et quand on parle d'espace, je veux vous citer 2 visions de personnes qui ne se revendiquent pas de la pensée juive moderne, mais qui, pour moi, en font partie. Une de Marshall Rosenberg. Les mots sont des fenêtres. ou bien ce sont des murs que vous connaissez peut-être. Et lui, il dit, ce que je recherche dans la vie, c'est la bienveillance, un échange avec les autres, motivé par un élan du cœur réciproque. Et il a mis en place ce qu'on appelle la communication non violente, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permet justement de créer un espace de médiation qui accueille à la fois ce que je ressens et ce que ressent l'autre, pour trouver une façon la plus appropriée, la plus joyeuse d'être heureux ensemble et donc de créer cet élan. Et l'autre personne que je veux citer à propos de l'espace, c'est Hannah Arendt, qui dit « Cet espace entre les hommes est l'espace vital de la liberté. La terreur et son cercle de fer éliminent non seulement l'espace vital de la liberté, mais la source même de cette liberté, celle qui réside dans la capacité qu'a chaque homme d'engendrer un nouveau commencement. » Et donc, comment est-ce que le texte qu'on a lu peut permettre de créer de l'espace et quel espace le judaïsme prend par rapport au texte? Et on peut le faire à partir de l'intérieur du texte lui-même. Et regardez, on pourrait reprendre à chaque moment dans ce texte qu'est-ce qui est de l'ordre de l'expression du sentiment, comme on le souligne en communication non violente, d'identifier qu'est-ce qui est de l'ordre du sentiment qui doit s'exprimer pour qu'il y ait cet espace. Et puis, qu'est-ce qui est de l'ordre aussi de la stratégie de la raison, comment faire en sorte que tout se passe bien. Et donc, on a cet espace, vous l'avez noté, de discussion entre Dieu et Moïse, où ils expriment relativement... Alors, quand je dis Dieu, je ne sais pas, c'est le Dieu, le personnage divin tel qu'il est décrit dans la Bible, qui se met en colère comme on ne pense pas que... la force à laquelle on adresse nos cœurs puisse se mettre en colère de cette façon-là. Il y a une différenciation dans le judaïsme entre les deux. Vous avez vu qu'en lisant le texte, j'ai dit à un moment donné l'Éternel au lieu du Seigneur. Le Seigneur, c'est la traduction mauvaise de Adonai, qui voudrait dire en fait « mes seigneurs ». Donc ça pose plein de problèmes parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on dirait « mes seigneurs » ? Mais de toute façon, ce n'est pas ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit, c'est « Yudhé Vavé ». Enfin, on prend beaucoup de recul par rapport à ça. Donc ce personnage de Dieu tel qu'on l'a décrit dans l'histoire, il faut aussi s'en distancier. C'est la vision, c'est une certaine projection d'une certaine vision de Dieu. Mais dans ce récit fondateur... C'est remarquable que Moïse et Dieu discutent, et vous avez vu avec quelle émotion, et en se renvoyant la balle, de quelle façon, et avec quel pathos à certains moments, et Moïse peut dire tranquillement « mais tue-moi plutôt que de me faire vivre ça ». Enfin, on voit ici des relations interhumaines extrêmement... On y reconnaît du vécu. Et donc il y a cet espace d'exploration de où on en est, parce que c'est ça qu'on veut dire. Moïse, il ne demande pas vraiment à Dieu de le tuer, mais il exprime le sentiment de son cœur en tant que sentiment, qu'il n'en peut plus. Et ça rejoint cette thématique de faire un espace, de faire un espace pour ce qu'on ressent au premier degré, et là j'en peux plus, et tue-moi tout de suite. Et l'espace que ça n'envahisse pas tout, parce que ça c'est ce que je ressens maintenant, mais ça n'empêche pas ensuite d'agir, et c'est ce qui se passe dans le texte. Et voilà, et donc c'est comme si en communication non violente peut-être le personnage divin dont on a parlé accueille et propose des stratégies. Vous avez peut-être noté que parfois dans le récit de la Bible, Dieu s'énerve, mais ici il va directement à la solution. Moïse pleure et gémit, et Dieu dit non mais attends, on va faire ça. Il va direct sur la stratégie pour résoudre le problème. Ça se discute, mais en tout cas c'est une des choses qui est possible, et c'est cet exemple-là parmi d'autres que nous propose ici le texte. Et donc on pourrait poser de nombreuses questions autour de ce texte si on le prend au premier degré pour nourrir nos réflexions. Je ne vais pas les reprendre verset par verset, mais on peut dire, et nous, quand est-ce qu'on gémit? Est-ce que nous aussi on gémit comme le peuple qui gémit, comme Moïse qui gémit? Et on voit aussi cette répercussion du gémissement, si l'un gémit, est-ce que ça éveille le gémissement en l'autre, puis dans le troisième et la quatrième, ou est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un peut prendre du recul, s'arrêter, écouter, accueillir mais sans s'identifier, avec un espace qui donne justement la possibilité de l'amitié et de la liberté. Pourquoi est-ce qu'on gémit ? Et quelles sont les alternatives ? Et pourquoi nos gémissements heurtent Dieu ? C'est intéressant aussi que Dieu réagisse et soit troublé par ces gémissements. Et donc, puisque c'est le Dieu absolu et infini, je ne pense pas que ça le dérange qu'on gémisse de façon directe, j'en sais rien. Mais ici, en tout cas, on nous dit que le gémissement du peuple provoque le gémissement de Moïse et a un impact sur Dieu. Alors pour moi, ça pose la question de, quand nous on gémit, qu'est-ce qui est heurté ? Quelle force, que ce soit Dieu ou Moïse, ou quelle que soit la façon dont on les nomme, quelles forces sont heurtées quand on gémit ? Ce qui ne nous interdit pas de gémir, parce que si c'est ce qu'on ressent, il faut bien partir de là où on est, mais quelles forces sont heurtées par ça ? Et comment ces forces se rééquilibrent ? Parce que Dieu et Moïse discutent, et qu'il se passe plein de choses par la suite. Et quelles solutions trouver ? Et comment avancer de cette façon ? Et puis derrière, il y a aussi la question du leader, Moïse. Que ressent le leader quand il est seul ? Ou quand elle est seule. Et quand je parle de leader, je parle de chacun et chacune d'entre nous, parce que nous assumons à titre personnel le leadership sur nos vies. C'est nous qui dirigeons nos vies, et parfois dans la solitude. Que ressentons-nous dans les domaines où nous sommes seuls ? Et voilà comment, de l'intérieur du texte, on peut dérouler un certain nombre de questions qui ouvre autre chose et crée cet espace de réflexion avec une distance au texte. Je voudrais relever trois points sur lesquels la distance juive au texte crée également un espace de médiation. Donc, faut-il croire au texte ? Faut-il coller au texte ? Pas dans la vision juive, car où serait l'espace ? Et cet espace est aussi nécessaire. Cette prise de recul est nécessaire également au dialogue. Donc, au verset 15, et moi je vais le reprendre à partir de l'hébreu. Au verset 15, alors je vais essayer de vous le redire comme en français. Oui, faut, sinon vous n'allez pas comprendre. « Si tu me destines un tel sort, ah, je te prie, fais-moi plutôt mourir si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je n'ai plus cette misère en perspective. » Que je n'ai plus cette misère en perspective. En hébreu, ce n'est pas du tout ça qui est écrit. C'est écrit que je ne vois pas mon malheur. D'accord ? Donc, ce n'est pas cette misère en général, c'est tue-moi tout de suite et que je ne vois pas mon malheur. D'accord ? Mais est-ce que c'est logique que ce soit écrit comme ça ? Apparemment, non, puisque Rashi, qui est un commentateur du XIIe siècle, nous dit le contraire. Il nous dit, il y aurait dû... Alors, je vous montre juste le livre d'où je suis, même si c'est très loin, vous ne voyez pas, mais ici, il y a la Torah écrite, la traduction en araméen de Onkelos. Ici, ce que je vous lis, c'est Rashi qui est là. Et ça, c'est un commentaire qui explique Rashi, dont je ne pense pas que je le citerai, mais parfois, il dit des choses amusantes. Il a une interprétation un peu personnelle de ce que dit Rashi, un petit peu plus... Il rend Rashi un peu plus classique parfois. Et donc je lis ici, et que je ne vois pas mon malheur, leur malheur, il aurait dû écrire, dit Rashi. Mais ça a été écrit sous forme de correction, et c'est l'une des corrections des Sophrim, des correcteurs du texte de la Torah. Et c'est ainsi que ça a été écrit. Donc Rashi nous dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Rashi introduit, donc il est à Troyes au XIe siècle, Rashi, et il est ultra reconnu, hein, c'est pas un juif libéral, je veux dire, il n'y a pas le libéralisme, comme l'orthodoxie d'ailleurs, naissent au milieu du XIXe siècle, donc il n'y a pas la question, et c'est une autorité infiniment reconnue. Il nous dit, le texte a été corrigé. Donc il y a cet espace qui est admis entre le texte et son interprétation. Et après, bien sûr, la question intéressante qui est pourquoi le texte a été corrigé et donc que je ne vois pas leur malheur, disent les commentateurs, ce serait trop violent et ils préfèrent dire que je ne vois pas mon malheur. Parce qu'il le prend sur lui, ce malheur, plutôt que de dire qu'eux vont souffrir, il dit c'est moi qui souffre. Mais je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, et on pourrait le dire aussi de façon différente. Mais je voulais vous montrer ici cette distanciation qui existe vis-à-vis du texte et qui est aussi interprétée. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, et on va le faire juste très rapidement, vous voyez au verset 25, en français. « Et aussitôt que l'esprit se fut posé sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne le firent plus depuis. » Faut pas exagérer quand même. « Prophétise un jour, ok, mais après il faut pas. » Ça, c'est la traduction. Alors, c'est une traduction reconnue, mais il pourrait pas y avoir de traduction normalement dans le judaïsme, parce que ça gomme les interprétations. Alors, Rashi nous dit à ce sujet, il nous dit qu'il y a deux versions pour lire et ils ne prophétisèrent plus depuis. Il y a la version du Sifri qui est une compilation d'interprétations qui a été faite au IIIe siècle qui dit c'est vrai, ils n'ont plus prophétisé depuis, mais il y a Ankelos, donc, dont je vous ai montré la traduction tout à l'heure, qui dit non, pas du tout, c'est pas qui. Alors, comment je traduirais en français ? Lo pasaku, ça veut dire... Ça peut être traduit des deux façons différentes, mais je vais avoir du mal à vous expliquer pourquoi, mais ça peut vouloir dire effectivement comme le Sifri qu'ils n'ont pas continué, mais ça veut dire selon Colosse qu'ils n'ont pas arrêté. Donc en fait, ils ont continué. Et donc c'est très intéressant, parce que selon ton option, tu peux lire les deux, que la prophétie est partagée et qu'elle revient à tout le monde et qu'on a besoin que tout le monde l'interprète, ou alors que non, pas du tout. Mais vous voyez, moi je trouve que ça tient vraiment pas la route. Hein. Pourquoi transmettre la prophétie à 70 sages pendant un jour et après t'arrêtes ? Tu vois ce que je veux dire ? Soit c'est une bonne chose, tu continues, soit c'est pas une bonne chose et tu commences pas. Mais si tu as commencé, pourquoi tu arrêtes ? Mais donc, moi, ça me dit plutôt quelque chose sur ce que disait le Sifri au IIIe siècle, qu'il fallait mettre un peu d'ordre dans le peuple et que si chacun se mettait à dire n'importe quoi, ça aurait été compliqué peut-être à ce moment-là. Et que pour Ankelos, c'était quelque chose d'un petit peu différent. Et la dernière chose que je voulais vous faire remarquer, mais vous l'avez senti peut-être, c'est le passage où on dit « Ce peuple, est-ce que j'en ai été enceinte ?» C'est Moïse qui se plaint à Dieu, on l'a lu. « Est-ce que j'ai été enceinte ? Est-ce que c'est moi qui ai accouché ? Et est-ce que maintenant tu veux que je l'allaite comme une maman ?» Bon, c'est traduit de façon un petit peu plus neutre, c'est le verset 12. Comme le nourricier porte le nourrisson, d'accord ? Donc on est repassé au masculin, mais enfin, le nourricier qui allait le nourrisson, c'est un peu la nourricière quand même, globalement. Et donc il y a toute cette image ici de Moïse qui n'a pas peur de s'approprier si le féminin, parce qu'il n'y a pas les limites qu'on projette sur le texte et qui referment et qui risquent de clore l'espace devant nous. Et donc c'est ce que... Alors je sais que j'ai ouvert beaucoup de choses, mais on dit dans le judaïsme souvent que l'important c'est la question. Qu'est-ce que c'est qu'un juif ? C'est quelqu'un qui répond à une question par une question. Deux juifs, trois opinions. Et les avocats disent la même blague. Donc deux avocats, trois opinions. Du coup, si c'est deux avocats juifs... Bref, donc j'ai conscience que j'ai ouvert plus de portes que je n'en ai fermées. Mais ce que je voulais montrer justement, c'est cette question de l'espace, de l'ouverture, de ce qu'on peut créer entre nous et qui peut nous mener justement à de l'action respectueuse comme ces 70 sages qui vont pouvoir reprendre une partie du leadership de Moïse pour le guider dans le désert. Et donc, peut-être que je veux conclure en disant que tous les lieux que nous fréquentions, en souhaitant que tous les lieux que nous fréquentions soient des lieux d'espace, qu'à l'intérieur de nos cœurs, ce soit un lieu d'espace, d'accueil de nous-mêmes et des autres. Je dis ça, je fais la morale à personne, hein, je me le dis à moi-même, j'essaye d'y travailler. Qu'à l'intérieur de nos cœurs, il y ait l'espace de nous accueillir, que les lieux que nous fréquentions soient des foyers pour nos âmes, et que ce foyer ici, qui est le vôtre, abrite beaucoup, 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 beaucoup d'âmes, ce qu'on sent très bien quand on vous entend chanter. Merci pour votre accueil.